Je m'entretiens avec Frédéric Côté, le directeur du Technocentre éolien. Voyons quelques aspects justement sur cette nouvelle au niveau de possibilité d'exportation d'énergie éolienne aux États-Unis. Frédéric Côté, bonjour.
Bonjour.
Commençons avec ce potentiel là, qui semble intéressant sur la côte est américaine, un élément nouveau là, lorsqu'on parle d'exportation.
Oui, en fait, en termes de marché, le marché de la Nouvelle-Angleterre est très intéressant. En fait, actuellement, au moment où on se parle, il y a un processus d'appel d'offres qui est en cours dans l'État du Massachusetts, qui représente, autour de 2000 mégawatts de demandes là, pour des nouveaux projets. C'est un appel d'offres très important qui est en cours et donc qui est une opportunité réelle qui est sur la table actuellement. Et il y en a d'autres qui sont prévus parce qu'en fait, dans l'État de New York et dans la région de la Nouvelle-Angleterre, ce qui se passe actuellement, c'est qu'ils sont en train de mettre hors service certaines centrales nucléaires, certaines centrales au charbon qui produisent de l'électricité, et ils veulent les remplacer par des sources d'énergie plus propres. Et dans ce contexte-là, ils ont démontré de l'intérêt pour de l'énergie renouvelable produite au Québec.
Ils aimeraient faire affaire avec le Québec, avec nous, en termes d'énergie renouvelable et l'éolien pour eux. À quelque part, même, je pense que on semble préférer l'éolien à l'hydroélectricité, là.
Oui, en fait, c'est exact. Ce qui se passe, c'est que l'énergie, en fait, l'électricité, pour nous au Québec, on a toujours tendance à considérer ça comme tous les électrons sont pareils, dans le fond, mais dans la réalité, c'est que tous les électrons, tout ce qui est produit par une centrale de production d'électricité ne sont pas égales parce qu'ils ont des attributs, notamment des attributs environnementaux qui varient. Et là, ce qui est nouveau, c'est que du côté des États-Unis, notamment, on a commencé, depuis ça, c'est pas nouveau de cette année, ça fait quand même plusieurs années que c'est le cas, ils ont commencé à donner une valeur à ces attributs environnementaux-là et à les monnayer. Et quand ils ont établi les différentes catégories d'énergie et également les différentes catégories d'énergie renouvelable, dans le fond, ce qu'on constate, c'est que l'énergie éolienne, comme l'énergie solaire, par exemple, sont ce qu'on appelle des énergies renouvelables de classe 1. Donc, ce sont les plus vertes des énergies renouvelables. Tandis que la grande hydroélectricité que l'on connaît bien ici au Québec est plutôt une énergie renouvelable, mais de classe 2. Évidemment, associé au fait là, que pour créer des grands bassins, il faut inonder des grands territoires pour l'hydroélectricité telle qu'on la conçoit au Québec. Alors, c'est avec ces prémices-là que les programmes d'acquisition d'électricité aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre en particulier, sont bâtis. Dans ce contexte-là, donc, il y a de l'appétit pour de l'énergie éolienne. Donc, c'est dans ce contexte-là où il y a vraiment un grand intérêt pour le Québec à positionner son énergie éolienne pour l'amener sur ces marchés-là. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un appétit à complémentariser cette énergie-là avec l'hydroélectricité. Donc, autrement dit, le produit que l'on souhaiterait vendre à partir du Québec, c'est de l'énergie éolienne, donc de l'énergie renouvelable de classe 1. Et évidemment, bien, les énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire, ce sont des énergies que l'on dit variables. Ça dépend toujours de la vitesse des vents, de la présence de soleil, des choses comme ça. Donc, on vient complémentariser les périodes où il n'y a pas de vent par de l'hydroélectricité de classe 2. Donc ça, c'est un produit qui est intéressant pour les gens de la Nouvelle-Angleterre. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand on regarde les gisements éoliens, en particulier, le potentiel éolien, il est clairement positionné au Québec et dans les maritimes de façon beaucoup plus intéressante que ce qu'on retrouve du côté sud de la frontière. Et ça, bien, ça concourt à avoir des coûts de projets qui sont plus compétitifs encore.
Bon, est-ce que chez nous, on peut encore justement produire de l'énergie éolienne en Gaspésie et exporter aux États-Unis? Est-ce qu'il y a encore de la place pour des parcs, premièrement?
Oui, bon, en fait, dans le fond, si on parle de la question « est-ce qu'il y a encore de la place pour des parcs? », évidemment, sur le territoire gaspésien, il y a encore beaucoup d'espace, il y a encore des très bons sites sur le territoire gaspésien qui pourraient accueillir là, des éoliennes et avoir un bon gisement de vent. Il en reste encore en Gaspésie. Donc ça, ce volet-là, il n'y a vraiment pas de problème. L'autre élément, mais c'est comment on peut transporter. L'autre question,
oui.
C'est bon, cette énergie-là, comment on la produit en Gaspésie? Est-ce que je peux l'amener ailleurs?
Parce qu'on a parlé souvent de goulots, d'étranglement, où il n'y avait plus de place là, pour transporter notre énergie. On était limité, là.
Oui, ça c'est exact. C'est particulièrement vrai dans un scénario où on veut acheminer cette électricité-là sur le marché québécois. Donc le réseau d'Hydro-Québec, à partir, c'est des goulots là, qui sont sur différents endroits sur le réseau, là, entre Rimouski et à peu près là, Lévis, je vous dirais, à différents endroits où on a des goulots d'étranglement. Par contre, si on parle d'exportation sur les États-Unis, il y a une voie qui est possible du côté du Nouveau-Brunswick et qui serait capable d'accueillir encore de l'énergie. Donc, des projets gaspésiens, si on fait cette hypothèse-là, pourraient exporter aux États-Unis par le truchement du Nouveau-Brunswick, là, le Maine, et jusqu'au marché de la Nouvelle-Angleterre. Là.
Bon, maintenant, est-ce que c'est vraiment pensable là, aussi que la région pourra en profiter financièrement? Je pense justement à la régie de l'énergie avec celle de la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent, cette alliance qu'on a faite déjà par le passé dans d'autres parcs qui donne des résultats. Est-ce que là, on pourra justement penser, en passant par des appels d'offres, aller chercher des projets, construire des parcs et exporter, puis que ça fonctionne, avec ce que le gouvernement aussi a annoncé?
Bien, en fait, si on regarde un peu ce que l'on a connu pour les projets développés au Québec, pour le Québec, c'était effectivement au niveau là, des décrets où on exigeait certains contenus, tant au niveau manufacturier qu'au contenu également de la participation des municipalités. Puis on l'a vu dans le dernier appel d'offres, on a réussi à faire des projets pour le marché du Québec à 6,3 sous du kilowattheure, donc de façon très compétitive avec une participation de 50% des communautés. Et ce qui était visé, c'était effectivement que dans le décret qui a été émis la semaine dernière pour modifier ce régime d'attribution des terres du domaine de l'État, que l'on insère tout de suite d'entrée de jeu une exigence de participation des municipalités. Dans le fond, ce qu'on observe, c'est que dans la réponse du gouvernement, c'est qu'ils ont permis, en fait, ils vont permettre la construction de projets de centrales de production d'électricité sur les terres du domaine de l'État, mais ils n'ont pas mis d'exigence par rapport aux participations des municipalités. C'est là, dans le fond, où on a assisté à une déception de la part là, des membres de l'Alliance de l'Est en énergie éolienne, des municipalités de l'Est, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent. Par contre, c'est pas interdit, dans le fond, le décret, le document n'interdit pas des participations des municipalités. Par contre, il ne les oblige pas. Et donc, ce que ça veut dire, en clair, c'est que les partis vont devoir négocier une entente ou une participation dans ces cas-là pour, dans le fond, que les communautés puissent, dans le fond, avoir un investissement dans les projets. Là.
Oui, parce que les privés n'ont pas nécessairement besoin des communautés pour faire des projets. Là. Est-ce qu'à ce compte-là, il y a fort à parier qu'on ne pourra peut-être pas en tirer notre épingle du jeu comme on l'a fait auparavant, sans que ce soit inscrit noir sur blanc quelque part?
Bien, je vous dirais que je pense que les développeurs de projets éoliens sont quand même très sensibles aux questions relatives notamment à l'acceptabilité sociale des projets. On développe, dans le fond, on a au Québec, au cours des 15 dernières années, raffiner de plus en plus la façon dont les projets sont développés. Et moi, je pense que faut pas présumer là que la porte va être complètement fermée à la participation des municipalités. C'est sûr, quand c'est une obligation, ben c'est une obligation. Fait que dans le fond, c'est un élément où les municipalités arrivent avec un bras de levier important pour s'asseoir avec les développeurs. Là, ce bras de levier qu'ils avaient dans le dernier appel d'offres, ils ne l'ont pas. Faut reconnaître que par ailleurs que la dynamique de marché, quand on parle de projets d'exportation, peut être sensiblement différente que lorsqu'il est question de développer sur le marché québécois. Mais moi, je pense que c'est pas impossible de penser là, qu'il va y avoir une participation des municipalités dans les projets, même pour l'exportation. En fait, la discussion par la suite, quand on regarde ça, ben on faut élargir un peu l'analyse en disant ben là, on parle d'un appel d'offres qui se déroule aux États-Unis pour de l'électricité qui va être consommée là-bas. Et là, c'est pas juste le Québec qui est interpellé. Il y a des projets aux États-Unis qui vont certainement être développés, en Ontario, dans les Maritimes. Donc, il faut aussi vraiment être conscient là, que la dynamique est plus complexe. Et c'est une question de prix. Évidemment, là, le prix va être très important, mais aussi une question de perception. Hein. Vous savez, il ne se passe pas... c'est assez régulier dans les pages, dans des journaux à Boston, notamment, où on va voir des publicités négatives face à Hydro-Québec, une entreprise d'État qui vient concurrencer les entreprises privées américaines. Donc, il y a toujours cette espèce d'image qui n'est pas exacte, en fait, hein, qui n'est pas juste, mais sur lesquelles certains détracteurs aux États-Unis aiment bien jouer, de dire, ben, l'électricité québécoise, elle est subventionnée, c'est un peu comme le bois d'œuvre, donc on devrait mettre des droits, on devrait mettre du blocage. Dans les faits, c'est vraiment un peu mesquin comme démarche parce que vraiment, on n'est pas là. Mais par contre, il faut toujours être conscient que c'est un peu un nuage là, qui flotte au-dessus de nos têtes quand il est question de vendre l'électricité aux États-Unis. Il faut être prudent là, quand on fait des gestes par rapport à ça où on veut impliquer des gouvernements qui soient municipaux ou provinciaux dans la production d'énergie pour vente aux États-Unis. Donc, ça doit faire partie aussi de l'analyse. Moi, je pense que les bons projets vont gagner. Puis, il y a, comme je vous le dis, on a un super bon gisement éolien ici.
Frédéric Côté, directeur du Technocentre éolien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci.
Ça fait plaisir, je vous en prie.